moi j'ai chambré du mouchma au Kasaï oriental. J'ai refusé totalement cette
idée. Moi j'ai essayé de combattre au Kasanga, je pense en combinant les deux, même si je vais précisément trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs, votre émission 100% interactive. Ce lundi 23 novembre 2009, nous allons consacrer notre émission aux droits de l'enfant en marge du 20e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant célébrée le 20 novembre dernier. En RDC, les organisations des droits de l'enfant estiment à près de 25 millions le nombre d'enfants qui vivent, 25 000 plutôt d'enfants qui vivent dans les rues de Kinshasa, près de 6 000 à Lubumbashi et des centaines dans les autres villes de la RDC. Un phénomène qui a pris de plus en plus de l'ampleur au cours de ces dernières 10 années avec comme conséquence la violation des droits fondamentaux de l'enfant, la désintégration du tissu social et même devenir une menace sur le plan sécuritaire. Deux questions pour en parler. Comment expliquer ce phénomène et quels mécanismes mettre en place pour encadrer ces enfants? Pour en parler, nous avons invité Mme Anne-Li, elle est spécialiste de la protection de l'enfant à l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Vos avis, propositions et questions sont attendus au cours de cette émission. Que vous nous suiviez à partir de Kinshasa ou à travers la RDC ou encore à travers le monde, soyez les bienvenus.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs. Composez le 081-99-77-800 par internet en écrivant à pa@radiocati.net.
Madame Anne-Li, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de la protection de l'enfant à l'UNICEF. Il y a près de 25 000 enfants dans les rues de Kinshasa, près de 6 000 à Lubumbashi, des centaines dans les autres villes de la RDC. Et en 2001, selon un rapport de Save the Children, l'organisation internationale à Kinshasa, on comptait près de 12 000 enfants de rue. Ce sont quand même des chiffres assez inquiétants. Et pourquoi cette augmentation en fait, des enfants dans les rues?
En fait, ce sont des estimations. C'est très très difficile d'avoir des données exactes, mais effectivement, ce sont des chiffres alarmants. Malheureusement, la crise actuelle, la crise économique, financière, n'arrange rien. Et l'UNICEF, depuis plusieurs années, travaille sur cette question en partenariat avec les partenaires locaux, comme le réseau des éducateurs pour les enfants et les jeunes de la rue, et aussi d'autres partenaires internationaux aussi, comme le collectif des organisations pour la protection des enfants en rupture familiale.
Mais quand même, vous avez constaté que le nombre ne fait qu'augmenter d'année en année.
Et effectivement, c'est pour cela que nous sommes, nous encourageons des interventions avec les partenaires comme les ONG, mais en particulier l'intervention, l'implication des autorités locales. Oui. Certainement, nous allons en discuter au cours de cette émission de cela.
Oui, mais est-ce que vous avez certaines causes en fait du phénomène enfant de rue?
Cause, en fait, c'est assez difficile, mais en premier lieu, nous parlons toujours de cette pauvreté généralisée, mais cela fait une décennie que nous en parlons. Il y a aussi certains phénomènes socio-culturels qui peuvent expliquer le phénomène.
Par exemple,
comme les enfants qui sont accusés de sorcellerie, est-ce que cela n'est pas aussi une conséquence de la crise économique? Mais c'est un phénomène inquiétant pour nous, les intervenants pour la protection de l'enfant. c'est quelque chose que nous sommes en train de voir de plus près, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de cette loi portant protection de l'enfant qui vient d'être promulguée en janvier dernier.
Oui.
Faire en sorte que cela devient un délit, que ce soit puni par la loi.
Par la loi.
Exactement.
Nous allons prendre Glory. Glory nous appelle de Matadi-Bakongo. Bonjour Glory.
Bonjour madame.
Oui Glory, au niveau de Matadi, est-ce que vous connaissez aussi ce phénomène enfant de rue?
Oui, les enfants de rue existent ici également à Matadi.
Oui, et quelles sont les causes?
En fait, les causes, comme madame vient de dire là, le grand problème, ce sont la crise socio-économique, qui fait qu'un enfant qu'on a pu appeler à la naissance trésor, bijou, et quand on se rend en position de crise, l'enfant devient sorcier, non, c'est lui qui bloque, c'est lui qui a tué sa maman, son papa, tout ça, donc c'est ça la grande difficulté.
Oui, est-ce que vous avez des chiffres pour l'instant? Vous pouvez estimer à combien les enfants de rue à Matadi?
Malheureusement, je n'ai pas de chiffres, madame. Malheureusement, je n'ai pas de chiffres, mais nous le voyons, ils sont surtout aux alentours de marché parce qu'ils dorment sur les tables de marché et puis, pour vivre, ils sont obligés de faire les petits travaux durant la journée, transportant les sacs pour les mamans qui vendent et puis c'est comme ça qu'ils vivent.
Oui, est-ce qu'il n'y a pas aussi, est-ce qu'il n'y a pas aussi certains comportements qu'on attribue souvent à ces enfants, qui sont agressifs? Est-ce que ça existe aussi chez vous?
Bon, oui, ils sont souvent agressifs. Vous voyez, madame, le grand problème, c'est que celui qui a reçu assez d'affection a du mal à être agressif. Mais un enfant qui n'a jamais reçu d'affection, à qui on a eu à traumatiser, il aura comme réflexe le mécanisme de défense et l'agressivité envers autrui.
Mm-hmm.
C'est ça le grand problème.
Merci beaucoup, Glory, pour vos avis et votre participation à cette émission. Nous allons nous revenons ici à Kinshasa. On se trouve Olivier. Bonjour, Olivier.
Bonjour.
Oui, votre avis par rapport au thème de cette journée sur les droits de l'enfant, notamment les enfants de rue?
Bon, pour moi, je crois que tout ça, c'est le gouvernement. Parce que notre gouvernement ne fait vraiment rien. Actuellement, il ne fait vraiment rien. Or, l'État devrait encadrer tous ces gestes-là, soit.
Mais il y a déjà, comme l'a dit notre invité, il y a déjà quand même une loi pour la protection de l'enfant. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est déjà quelque chose?
Ah, madame, et tout ça, reste sans tellement que des paroles. Notre gouvernement dit seulement chaque jour, mais il ne fait absolument rien.
Mm-hmm.
Donc, notre gouvernement devait créer des écoles.
Des centres d'encadrement.
Oui, des écoles et des
mais il en existe quand même.
Pour mettre tous ces gens-là. Mais notre gouvernement ne fait vraiment absolument rien. Or,
merci beaucoup,
madame.
Oui, Olivier.
C'est la jeunesse qui est à venir demain. Alors que notre gouvernement, il ne change rien.
Oui. Merci beaucoup Olivier pour votre apport. Nous allons nous rendre directement au quartier occidental où se trouve Destinée. Bonjour Destinée.
Bonjour Marie Chantal.
Est-ce que vous aussi vous êtes de l'avis d'Olivier de Kinshasa qui pense que tout revient au gouvernement, que rien n'est fait pour encadrer les enfants?
Non, non. Moi je ne suis pas son point de vue, je risque d'être intellectuel par procuration.
Oui.
Moi je dis, mon point de vue c'est que d'abord la charge ne revient pas au gouvernement totalement parce que il y a deux milieux éducatifs, c'est d'abord la famille et aussi l'environnement. L'éducation qu'a l'enfant, ce n'est pas nécessairement dit que le gouvernement.
Oui.
La charge ne peut pas être imputée au gouvernement. C'est soit l'enfant lui-même ou c'est la famille qui a raté l'éducation de cet enfant-là.
Oui, par rapport à tout ça, et quel est votre rapport à cette émission? Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire pour ces enfants?
J'aurais voulu, le gouvernement a déjà mis en place il y a une loi qui est sortie en 2006 qui modifie, qui complétait l'ancienne loi.
En janvier 2009, il y a eu la promulgation d'une loi par rapport à la protection de l'enfant.
Oui, oui, le gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts, mais ce qu'il faut aussi ajouter à cela, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement de cette loi, parce que l'application c'est zéro. Et ça, il faut le dire tout haut. On n'applique pas ces lois. Elles sont promulguées tout le temps. Les lois ne sont pas appliquées. Il faut qu'il y ait application et aussi qu'il faut que cette tolérance zéro soit d'application.
Merci.
Les juges n'arrivent pas à faire leur travail.
Oui, merci beaucoup.
L'enfant n'est pas totalement protégé.
Merci beaucoup, Destiné, hein, pour votre participation et votre avis à cette émission Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs.
Madame Anne-Lie, vous avez suivi nos auditeurs, les préoccupations. Il y a eu, par exemple, Glory qui dit carrément que le gouvernement doit faire quelque chose là-dessus, essayer d'encadrer ses enfants à Kinshasa. Olivier aussi dit la même chose, hein. Et les mêmes causes, c'est toujours le problème, la pauvreté, et ainsi de suite. Mais que répondez-vous à ces auditeurs?
Je voudrais nuancer un petit peu les propos, surtout d'Olivier, qui dit que le gouvernement ne fait rien. Effectivement, il y a eu cette loi qui a été promulguée. L'UNICEF travaille en étroite collaboration en particulier le ministère des Affaires sociales. Et actuellement, il y a des lignes directrices qui ont été définies pour justement encadrer ces enfants en rupture familiale. Mais aussi, il y a le gouvernement vient de valider un plan national d'action en faveur des orphelins et enfants vulnérables qui inclut en fait les enfants en rupture familiale. C'est extrêmement important et encourageant de voir concrètement la volonté du gouvernement pour en fait donner une réponse pour ces groupes d'enfants vulnérables, et je pense que notre rôle aussi c'est d'encourager et d'appuyer ces initiatives. C'est sûr que ça doit être traduit en termes d'action. C'est pour cela que nous sommes là avec la société civile pour appuyer le gouvernement.
Et qu'est-ce que vous faites par exemple concrètement, parce que comme notre auditeur destiné de Kalanga, il a dit qu'il y a, des actions. C'est vrai que l'enfant n'est pas seulement l'enfant des parents, c'est aussi l'enfant de la société, de la solidarité africaine, hein, parce que on peut même constater les phénomènes enfants de la rue, c'est plus dans des grandes villes, dans nos villages, c'est pas aussi, on n'a pas autant d'enfants de rue que pour l'instant. Mais que fait l'UNICEF par rapport à ces situations-là, concrètement sur terrain?
Effectivement, la responsabilité n'est pas seulement des autorités locales. En premier lieu, c'est la famille, la communauté. C'est pour cela que nous travaillons sur le terrain avec les communautés pour sensibiliser pour cette question et impliquer concrètement les communautés dans la prévention de ce phénomène. C'est pour ça qu'il y a des comités de protection de l'enfant dans la plupart des sites où nous intervenons, pour justement identifier les enfants qui sont à risque et aussi jouer un rôle de médiation. Quand ces enfants sont déjà dans la rue, comment les faire revenir dans leur famille? Bon, il faut aussi avouer que si les enfants sont partis, c'est que ils ne trouvent pas un milieu protecteur dans leur famille. C'est pour ça aussi qu'il faut travailler en parallèle avec les parents, la famille élargie, etc.
Mais est-ce que vous appuyez aussi des centres de réinsertion? Parce qu'il y a plusieurs centres, par exemple à Kinshasa, on compte plus d'une centaine des centres qui encadrent les enfants de rue.
Exactement, nous travaillons avec 37 centres d'accueil, d'hébergement ici à Kinshasa, avec nos partenaires membres du réseau des éducateurs des enfants et jeunes de la rue, le RIGER. Ce sont des mesures transitoires. Nous ne pensons pas qu'un centre qui hébergerait les enfants pour une longue durée favorise le développement de ces enfants-là. C'est juste transitoire, le temps de retrouver les familles, le temps de trouver une solution pérenne pour ces enfants-là.
Oui. Nous allons prendre Léon, il nous appelle de Béni. Bonjour Léon.
À vous aussi.
Oui, oui, Léon, dites-nous. On vous écoute, Léon, par rapport à cette émission, par rapport à ce thème sur les enfants de rue.
Ok, de ma part, je dirais que la cause qui est. Donc, le motif qui est à la base de ces enfants qui se trouvent dans la rue, c'est tout simplement d'abord la famille. Puisque l'État devrait quand même harmoniser les conditions de vie de toutes les familles en RDC.
Par exemple,
à supporter réellement les parents qui travaillent dans les différents services. Nos parents ne sauront pas comment supporter ces enfants. Même si la famille est bien assurée, la famille aussi répondra maintenant aux obligations de l'enfant.
Vous dites que l'État devrait donner des bons salaires. Quand vous dites supporter, c'est un peu vague.
Donc oui, donner des salaires décents. Puisque un parent qui travaille ne trouve rien dans son travail. L'enfant qui demande à ton parent quelque chose de manger, il ne trouve pas. Et l'homme qui te jette dans la rue, qui trouve quelque chose à manger, c'est vraiment... encourageant, puisque il faut maintenant aller dans la rue pour qu'il trouve à manger.
Est-ce que vous pensez vraiment que c'est l'une des raisons, le fait qu'il n'y ait pas des bons salaires pour que l'enfant se retrouve dans la rue et non aux parents de pouvoir trouver une solution pour mieux encadrer ses enfants?
Oui, puisque par exemple, c'est une cause aussi, puisque les parents n'arrivent pas à supporter réellement la famille. L'enfant se trouve dans les possibilités. Et rester dans la famille où je ne trouve rien, oui. C'est la mort, les guerres.
Merci beaucoup. Encore les
organismes. Je pense que les organismes élaborent ces programmes sur base de choses qui ne sont pas réelles dans la société. Normalement, avant d'élaborer un programme, vous devez quand même étudier la réalité. Où est la cause qui pousse que ces enfants puissent se retrouver dans la rue? Alors, ces organismes-là, allez d'abord étudier la société et connaître les causes qui poussent ces enfants-là.
Merci beaucoup, Léon. Pour vous, vous pensez que les organismes qui s'occupent de la défense des droits de l'enfant doivent élaborer des projets en fonction des besoins et des réalités de la société. Nous allons nous rendre à Goma, au Nord Kivu. Bonjour, James.
Bonjour, madame la journaliste.
Oui, James, on vous écoute par rapport à ce thème sur les enfants de rue.
Oui, en tout cas, nous déplorons une chose ici chez nous à Goma. En tout cas, nous félicitons juste la fête qui vient de se passer, l'anniversaire des enfants. En tout cas, nous disons grand merci pour cette fête. Mais ici à Goma, il y a le monde où il y a les enfants, pas mal des enfants de la rue, en tout cas. Ici, c'est apparemment, c'est toute une pile des enfants. Vous verrez les enfants qui sont en train d'errer dans des rues, qui sont en train de trous d'aujourd'hui, chercher de braises, chercher des eaux, vous voyez tout ça.
Oui.
Ça, c'est déplorable aussi à
moi. Et comment expliquer ce phénomène? Comment est-ce que...
Des enfants.
Oui, comment est-ce que vous expliquez ce phénomène qui est de plus en plus d'enfants dans les rues de Goma?
Ouais, justement, ici à Goma, c'est toute une ribambelle des enfants qui errent dans la rue. La raison pour laquelle j'ai tiens à interpeller la conscience du gouvernement, en vue qu'ils prennent juste à charge tous ces enfants de la rue, mais aussi des ONG qui sont déhérées dans
la rue. Pour vous à Goma, quelles sont les causes des enfants de rue pour l'instant? Pourquoi il y a autant d'enfants dans les rues? Quelles sont les causes? Selon vous.
Je pense qu'il y a une grande totalité des enfants analphabètes, donc les enfants qui n'étudient pas. À part ça, il y a les enfants qui sont poussés par le gène de l'incar de la ville, où vous verrez un enfant à l'âge de 12 ans commence aussi à pratiquer juste l'amitié avec un adulte qui doit l'entraîner, par exemple, dans la prostitution.
Donc, il n'y a pas assez d'encadrement, selon vous. Merci beaucoup, James, votre apport à cette émission, et bonne journée au Nord Kivu à Goma. Nous allons nous rendre au Bandaka, c'est à l'Équateur. Bonjour, Joël.
Bonjour, madame.
Oui, Joël, à Bandaka, est-ce que vous avez aussi ce phénomène en son début?
Oui, nous avons ce phénomène en Bandaka.
Oui, et comment est-ce que vous expliquez cela?
Oui, le phénomène enfant de la rue en Bandaka s'explique par l'irresponsabilité des parents. Vous savez, quelqu'un qui est irresponsable, même s'il a un grand salaire, il va continuer toujours à être irresponsable parce qu'il n'a pas le vrai sens de responsabilité. Ce qui fait qu'en Bandaka, on retrouve les enfants dans la rue.
Oui, merci beaucoup, Joël, pour votre proposition, votre avis par rapport aussi l'information que vous nous avez donnée. Nous allons nous tourner vers Madame Anne-Lee. Les auditeurs se plaignent encore une fois. Ils ont constaté ce phénomène enfant de rue. Et il y a même un auditeur de Léon de Béni au Nord Kivu qui a même dit que souvent les organismes qui travaillent pour la protection de l'enfant ne voient pas la réalité. Ils n'élaborent pas les projets au regard de la réalité sur terrain.
Ce qui est vrai, c'est que jusqu'à présent, peut-être que les organismes travaillent un petit peu d'une façon isolée et pas concertée. C'est pour cela que, comme je l'ai signalé, ce plan national d'action, qui est en fait un plan du pays, va permettre que tous les intervenants vont s'aligner sur une politique globale. Donc, va permettre des actions plus concertées, coordonnées. C'est pour ça que c'est extrêmement important que ce document fédère, en fait, les interventions sous l'égide du gouvernement. C'est pour ça que j'insiste pour dire que nous sommes ici pour appuyer le gouvernement, pour faire ce travail en parallèle avec des interventions au niveau des communautés et des familles.
Oui, mais pourquoi alors, comme peut-être nous l'avons constaté, il y a plus d'enfants de rue dans les grandes villes que dans les milieux ruraux?
Peut-être ce sont les grandes villes, ce sont des opportunités économiques qui attirent ces enfants-là, qui quittent donc leur village pour aller pour trouver peut-être un revenu qu'ils n'ont pas dans les villages. Ce sont des phénomènes de globalisation, d'urbanisation qui peuvent certainement expliquer une partie de ces phénomènes.
Il y a aussi un auditeur qui nous a parlé de l'agressivité des enfants de la rue. Est-ce que vous pouvez expliquer cela? Parce que je me souviens en 2004, au niveau de Mbujimaï, à un moment, les enfants de la rue, selon une population, étaient devenus agressifs. Il n'y a pas eu une prise en charge assez bonne de gouvernement, même des organismes. On est arrivé à pouvoir tuer, à brûler plusieurs enfants de la rue, une vingtaine des blessés. C'était une justice populaire. Mais comment est-ce qu'on peut essayer de gérer ce genre de situation qui ne puisse pas se répéter?
Je pense que l'auditeur avait aussi ajouté que, justement, ces enfants n'avaient pas de cadre protecteur, pas d'affection, pas d'amour, pour dire les choses telles qu'elles sont. Mais en même temps, il ne faut pas non plus expliquer ces violences par rapport à l'attitude des enfants. C'est aussi une responsabilité des adultes vis-à-vis de cela. Ces enfants ont été accusés de sorcellerie. Sur quelle base? Nous ne savons pas. Et
présent, c'était suite à, pour les cas, par exemple, à Mbujimaï, c'était des enfants de la rue qui ont été en train de menacer certaines populations pour qu'ils puissent arnaquer, si on peut dire comme ça, de voler. Et c'est ainsi qu'il y a eu cette réplique assez forte, si on peut dire, par rapport aux enfants de la rue. C'était un peu exagéré.
C'est peu dire, mais c'est encore plus grave, c'est que les adultes qui ont commis ces actes de violence et même ces crimes, parce que certains enfants ont été tués, et parmi ces adultes, il y avait la famille de ces enfants-là. Donc, je pense que ce n'est pas excusable de mettre la responsabilité pour ces enfants, parce qu'ils étaient en manque de repères. Personne pour les encadrer, personne pour les protéger. Donc je pense que c'est pas possible de simplement mettre la responsabilité sur les enfants.
Vous écoutez Radio Okapi, émettant de Kinshasa. Nous mettons à votre disposition l'information sportive nationale et internationale. Une équipe de 4 journalistes reporters se penche sur l'actualité dans ses moindres détails. Des enquêtes, des reportages, des directs, des journaux en synthèse et 4 heures non-stop de tour de correspondants chaque dimanche. Radio Okapi, l'info, c'est aussi le sport et le pas de course.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Eh bien, pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, c'est l'émission Parole aux auditeurs. Aujourd'hui, on se consacre sur les droits de l'enfant avec ce phénomène enfant de rue. Selon les organisations de défense des droits des enfants, il existe près de 25 000 enfants de rue à Kinshasa, près de 6 000 à Lubumbashi et des centaines dans les autres villes de la RDC. Un phénomène qui a pris de plus en plus de l'ampleur au cours de ces 10 dernières années, avec comme conséquence la violation des droits fondamentaux de l'enfant, la désinformation, désintégration du tissu social et même ce phénomène peut devenir une menace sur le plan sécuritaire. Pour en parler, nous avons deux questions. Comment expliquer ce phénomène et quels mécanismes mettre en place pour encadrer ces enfants? Vous pouvez participer à cette émission comme l'a fait destinée Olivier et Léon. Il suffit de nous appeler au 081 99 77 800 et nous vous rappellerons. Soit vous pouvez nous écrire par internet à l'adresse pa@radiocapi.net. Radio Capi s'écrit en un seul mot. Nous allons au Sénégal occidental. Bonjour Augustin.
Bonjour.
Oui Augustin, on vous écoute. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce phénomène puisse être maîtrisé?
Mais cette situation-là incombe d'abord l'État congolais. Vous voyez, d'abord, les parents des enfants sont mal payés. Bon, quand les enfants étudient, c'est les parents qui supportent les études. Bon, la Constitution prévoit que l'enseignement primaire d'abord est gratuit. Mais les parents payent. Bon, les enfants passent à l'école, on les chasse. Comment le phénomène de la rue ne peut pas continuer? À part ça, les fonctionnaires de l'État même, ils sont là, ils travaillent, mais ils sont payés comme des célibataires. On ne paye pas les allocations des enfants. Après, il y a même des enfants qui ont quitté des milliers. Là où il y a la guerre, ils sont venus maintenant s'abdomérer autour de la vie. Donc, le phénomène des enfants de la rue ne veut pas terminer.
Merci beaucoup, Augustin. Nous allons, nous revenons ici à Kinshasa. Bonjour, Kayombo.
Oui, bonjour.
Oui, Kayombo vous écoute par rapport à ce phénomène enfants de la rue.
Pour moi, les enfants de la rue, il faut voir d'abord l'historique. Avant, on ne parlait pas des enfants de la rue, parce que dans chaque village, l'État s'occupait des familles des enfants. Les familles des enfants avaient du travail, du travail de culture, il y avait moyen que les parents nourrissent leurs enfants. Et maintenant, les gens viennent, des équipes de village viennent ici sans vie, sans travail, avec leurs enfants. Arrivés ici, ils ne trouvent pas du travail et les enfants ne savent pas quoi faire. Les parents abandonnent les enfants parce qu'ils ne savent pas les nourrir.
Mais est-ce qu'au niveau de la famille, est-ce qu'il n'est pas aussi... comment est-ce qu'on peut essayer de réduire même, la, par exemple, on peut parler on peut essayer de pouvoir... essayer de dépasser les naissances, réduire les naissances si une personne pense qu'il n'a pas assez de moyens pour encadrer ses enfants.
Réduire les naissances, ça n'a rien à voir. Les naissances existeront toujours. Il faudra que les enfants, les gouvernements sachent pourquoi les gens quittent le village, viennent ici. Il faut empêcher les gens de venir ici pour ne rien faire. Et quand vous regardez aussi les enfants de rue, il faut voir le sexe. Il n'y a plus de garçons que de filles. Mais pourquoi il n'y a plus de garçons que de filles? Parce que les filles sont occupées à faire autre chose à la maison. Hein? Les parents laissent leurs enfants sur le ring, soit pour voler, soit je ne sais pas quoi. Hein? C'est ça le problème.
Oui. Merci beaucoup, Kayombo. Nous allons aller à Kindu, au Maniema. Bonjour, Polybé.
Bonjour, madame.
Oui, Polybé, est-ce que vous êtes aussi de l'avis de Kayombo qui pense qu'il faudrait que l'État puisse essayer de revoir de quelle manière on peut bien payer les parents pour pouvoir éviter ce phénomène enfant de rue?
Ah non, je pense que le problème n'est pas au niveau de l'État. Mais s'il y a des enfants de la rue, tous ces enfants ont de la rue parce que les églises ont prophétisé quelque chose. Alors, je ne sais pas si je peux y aller directement aux solutions.
Oui.
La plus grande solution chez moi, c'est que l'État devrait fermer les églises inviables, les sectes inviables. Et ce sont ces sectes-là qui mettent la vie de nos enfants en danger par des prophéties selon lesquelles cet enfant aurait jeté de mauvais sorts sur telle et ainsi de suite. Donc, il faut fermer des sectes qui sont... Ce sont ces sectes-là qui nous créent des problèmes.
Mais pour vous, quels sont les signes d'une église ou bien d'une secte qui n'est pas viable?
Bon, une secte qui n'est pas viable, c'est celle qui n'a pas d'abord assez de fidèles. Alors, les responsables se mettront à tout faire pour chercher des fidèles, même par des moyens désordonnés comme qui fait elle sortir. Ouais. Je vous dis, ma soeur, à Kinshasa, quand vous allez dans une chambre de prière, vous ne quitterez jamais indemne. Soit on vous dit, vous êtes en train d'être utilisé par un sorcier, soit on vous dit, vous êtes vous-même sorcier.
Mm-hmm.
Voilà le problème. Ce sont les affamés. Les églises là, ouvertes par des affamés, sont celles qui nous créent des problèmes et vont continuer à nous créer sérieusement des problèmes. Je peux ajouter aussi quelque chose. Il y a la pauvreté. Hein? Beaucoup d'ailleurs ont parlé de la pauvreté. Nos familles sont tellement pauvres, dans la plupart. Ce sont les enfants ici, les familles pauvres, qui sont appelés sorciers. Mais les enfants des riches n'ont jamais été appelés sorciers.
Mm-hmm.
Voilà ça, madame.
Merci, Polybéen. Vous intervenez à partir de Kindu Omaima. Madame Lynn, vous avez suivi nos auditeurs. Est-ce que fait le... C'est vrai que l'UNICEF vient d'appuyer au gouvernement par rapport à la gratuité de la scolarisation, surtout à l'école primaire.
L'UNICEF a un très très gros programme d'appui de fourniture scolaire pour toutes les écoles dans le pays. Et malheureusement, il y a certaines écoles qui ne sont pas non plus ciblées. C'est pour ça qu'il y a des projets.
Et vous touchez combien d'écoles sur toute la RDC?
Je ne saurais pas vous dire le chiffre exact, mais mes collègues de l'éducation certainement vous diront. Mais il s'agit de la majorité des écoles ici, des écoles primaires ici dans le pays. C'est pour cela que nous pouvons en même temps avoir une compensation par rapport à ces écoles qui sont ciblées, c'est que en échange, les enfants qui sont considérés comme vulnérables puissent être enregistrés, aller à ces écoles sans qu'on leur demande des frais de scolarité. Nous voulons en fait étendre, généraliser ce principe-là. Pour l'instant, ce sont seulement quelques écoles qui ont donné leurs accords par rapport à ça. Et je voudrais surtout insister par rapport à une loi qui existe déjà dans le pays pour les détenteurs d'attestation d'indigence. C'est une loi qui était en pratique dans les années 80.
Un peu simplement,
ce sont en fait c'est un certificat qui donne à des personnes qui sont considérées comme pauvres d'être exonérées de frais de scolarité pour les enfants, frais de santé, mais aussi de justice. Mais malheureusement, à cause de la crise, de la pauvreté généralisée, si on doit donner ces attestations, ce serait à 70% de la population. C'est pour cela que le gouvernement dit ce n'est plus appliqué, mais c'est appliqué dans certaines provinces avec l'encouragement de l'UNICEF dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que nous voudrons faire le plaidoyer ici auprès du gouvernement pour que cette attestation puisse au moins toucher les plus vulnérables des vulnérables.
Oui, mais par rapport aux églises, quand même, souvent, l'une des causes, c'est aussi le fait qu'on accuse les enfants de sorciers et pour, selon les études même menées par certaines organisations, c'est l'une des causes de plusieurs enfants se retrouvent dans la rue parce qu'ils sont accusés de sorciers. Que fait l'UNICEF par rapport à ça?
En fait, église, il faut bien distinguer, comme l'a dit l'auditeur, ce sont plutôt les sectes qui sont ici en cause avec les pasteurs exorcistes, etc. Mais là, je pense que c'est plus des gens qui veulent profiter de la vulnérabilité de ces familles. Et donc, ce sont surtout des charlatans par rapport à ce phénomène-là qui disent pouvoir guérir, mais en échange, profitent de ces familles pour prendre ici et là
de l'argent. Donc, c'est ça aussi peut vous sensibiliser.
Exactement. Il y a de grandes campagnes de sensibilisation par nos partenaires, la société civile, et nous travaillons énormément avec l'Église catholique, ici en particulier la Caritas, avec ses réseaux de volontaires communautaires qui aident énormément à diffuser le message dans les communautés.
Parole aux auditeurs.
Nous avons Dr Richard, il nous appelle à partir de Kinshasa. Bonjour Dr Richard.
Bonjour madame.
Oui docteur.
Bonjour aussi à votre invité. Merci à tous les invités.
Oui docteur Richard, on voudrait quand même savoir quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour encadrer les enfants de la rue. Qu'est-ce que vous pensez?
Pour arriver au mécanisme, il faut aller en amont des mécanismes, c'est-à-dire comprendre le phénomène à partir de ses origines. Et ce n'est qu'à partir de ça qu'on peut dégager les stratégies d'encadrement. Ainsi que ma participation que je voudrais livrer pour peut-être avoir le consensus dans la suite des discussions comprend 4 petits points.
Oui.
Ok. Alors, maintenant quand nous considérons les familles, nous trouvons que il y a dans le petit premier point, c'est la production des enfants en désordre. Il y a des gens qui n'ont pas de revenus, ils ont par exemple 11 enfants et ils n'ont que 15 000 francs à la fin du mois. Voilà ce que ça peut faire. Deuxième chose, dans ce petit point, il y a aussi la légèreté dans le traitement des dossiers des filles qu'on engosse. Ok?
Oui.
Les familles se contentent parfois de 2 ou 3 casiers de bière pour régler l'histoire. Mais au lieu de responsabiliser l'engrosseur, et là, il y a aussi la complicité de la justice. Ok? Depuis tout le temps, on engrosse les filles, la justice ferme les yeux, et aujourd'hui, on parle d'enfants de la rue. Deuxième grand point, c'est la complicité de la communauté qui agissent eux-mêmes comme des familles. Alors, le troisième petit point, là, je rentre dans le gouvernement. Par exemple, en matière de salaire, je suis fonctionnaire de l'État. Dans mon pays, moi, il n'y a pas d'allocation familiale. Je dois faire des acrobaties pour réunir les moyens et subvenir aux besoins de la famille. Oui. Il y a aussi une éducation civique conséquente pour produire des modèles. Il y a même des responsables que nous voyons qui n'ont pas honte, qui fabriquent des enfants à gauche, à droite. Il y a même autre, je suis au courant de quelqu'un qui, on vient de lui retourner son enfant qu'il a fabriqué chez une femme, mariée, et le mari a été conduit à la mort par, soi-disant, le complice de ce monsieur. Ce n'est pas un modèle, un type comme ça.
Oui, donc il faudrait plus de responsabilité dans les chefs des parents, hein, si on peut...
Il y a aussi la communauté.
Il y a aussi la communauté et le gouvernement.
Il y a la justice dans le gouvernement.
Merci beaucoup. Hein,
et puis la communauté internationale, excusez-moi.
Oui, Richard,
s'il vous plaît. La communauté internationale est faiseur de qualité.
S'il vous plaît, Richard, on a compris hein, vos préoccupations.
Oui.
Hein.
Alors,
vous avez donné. S'il vous plaît, Richard.
Les mécanismes d'encadrement.
S'il vous plaît, Richard.
On va parler.
S'il vous plaît, Richard.
Pour rien.
S'il vous plaît, Richard, merci beaucoup hein, pour tout votre apport par rapport à cette émission. Nous allons directement prendre Simon. Simon qui nous appelle, toujours de Kinshasa. Bonjour, Simon.
Bonjour, madame.
Oui, Simon, par rapport à cette émission, ce thème d'aujourd'hui, que pensez-vous qu'on puisse faire pour pouvoir encadrer les enfants de rue et essayer de maîtriser ce phénomène?
Bon, pour moi, j'ai 2 points. La cause, tout d'abord, la cause de cette migration des enfants dans la rue, ça s'approche des sectes religieux, les pasteurs surtout. Et puis, ils sont dans la qui sont partout, un enfant à la maison, alors que papa n'a rien, pour que le papa ne progresse pas, on cherche l'enfant.
Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour maîtriser alors ce phénomène enfant de rue?
Pardon?
Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir?
Il faudrait alors qu'on fasse ceci. Dans l'État, il y avait une école vers qui chante là-bas pour les enfants des œuvres. Nous avons un grand prix. Si l'État pouvait, par hasard, dans chaque province, ouvrir une école pour ces enfants là-bas, une école comment? Une école de métier, hein? De champagne, de maçons, des électriciens, nous foutons là-bas, éloigné de la ville où l'enfant était pris. Ceux qui ont été pris peut-être à l'Équateur vont au Bas-Congo, ceux qui ont été pris au Bas-Congo vont à Kisangani et ainsi de suite. Ces écoles-là sont bien suivies par l'État et avec l'aide de l'UNICEF, je crois que ça peut aller.
Mais peut-être que vous avez peut-être constaté que ce n'est pas la première fois que l'État a essayé d'ouvrir un centre de transit, mais souvent les moyens n'ont pas suivi et les enfants sont retournés pour la plupart dans la rue. Mais aussi, est-ce que vous êtes de l'avis que la famille, c'est d'abord le lieu d'excellence pour les enfants, si vous demandez qu'on puisse les transférer d'une province à une autre, est-ce que vous ne pensez pas qu'on va éloigner ces enfants de leur famille?
Bon, madame, vous voyez que surtout la pauvreté est là, et les parents sont absents de leurs responsabilités. vraiment les enfants et les parents qui ne parviennent pas à scolariser les enfants et surtout les filles, ils sont comme on laisse passer les filles font tout ce qu'elles veulent pour vivre aussi des parents.
Oui.
Alors les parents sont absents. Bon,
merci
ils
beaucoup.
Sont absents physiquement, mais la responsabilité est absente.
Oui, merci alors, beaucoup, Simon. On a compris, vous pensez que l'État a une responsabilité, ainsi que les parents, dans l'encadrement des enfants, et surtout bien les encadrer pour éviter qu'ils se retrouvent dans la rue. Il y a Maria qui nous appelle de Kananga, au Kasai Occidental. Bonjour, Maria.
Bonjour, madame.
Oui, Maria, on vous écoute.
Et par rapport à ce fléau, je crois que le traitement doit être bilatéral, c'est-à-dire qu'on doit d'abord traiter l'origine et ensuite s'arranger pour créer des structures pouvant amener ces enfants à se retrouver, c'est-à-dire essayer de répondre à leurs besoins. Dans la majorité, il y a un problème économique. Quant à l'origine, je vois une cause économique, une cause sociale et une cause spirituelle. Alors, il faut essayer de répondre aux besoins économiques et financiers des parents qui peuvent arriver à supporter leurs enfants par rapport aux parents. Les remariages et les mariages polygamiques, ça pose beaucoup de problèmes. Et par rapport au spirituel, essayer de lever certaines mesures pouvant interdire aux pasteurs et aux prophètes, entre guillemets, de raconter de n'importe quoi par rapport à leurs visions et prophéties.
Merci beaucoup, Maria, pour vos propositions par rapport à ce phénomène enfant de rue. Madame Lee, vous avez suivi nos auditeurs. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une relation dans l'accroissement du nombre des enfants de rue et l'impunité?
L'impunité, tous les enfants de la rue ne sont pas des criminels non plus. Je voudrais juste resituer votre question. Beaucoup d'auditeurs ont parlé des responsabilités des parents. Et à ce niveau, je pense que la loi qui vient d'être promulguée est claire. Hein. C'est que les parents sont responsables de leurs enfants. Si par exemple un parent est reconnu coupable d'avoir accusé et abandonné son enfant dans la rue pour raison de sorcellerie par exemple, ce parent-là est puni. Voilà, donc est puni. Donc je vois plutôt dans ce sens-là, parce qu'un enfant qui est dans la rue, on a l'impression de dire c'est lui qui est l'auteur d'un délit, etc. Je pense qu'il faut plus se voir dans ce sens-là et dans le sens de comment donner l'accès à la justice pour ces enfants-là, qu'ils soient auteurs, victimes ou témoins.
Par rapport à cela, il y a plusieurs tribunaux d'enfants qui sont maintenant en train d'être installés.
Exactement.
Mais il y a aussi une police pour
l'enfant. En fait, il n'y a pas encore de tribunaux d'enfants et l'UNICEF est en train de travailler avec le ministère de la Justice.
Au Kasaï Occident Oriental, le BICE a pu instaurer, si on peut dire, des juges d'enfants qui sont spécialisé dans ce cas.
En fait, le BICE travaille donc avec l'appui de l'UNICEF pour justement pouvoir instaurer un système de justice pour les enfants. Bon, nous sommes qu'au début, c'est pour ça qu'il faut encourager, mais effectivement, c'est un aspect que l'UNICEF défend, c'est que les enfants aient accès à la justice.
Oui. Et par rapport aussi, il y a un auditeur qui a fait allusion au travail de l'enfant. Il a dit qu'il y a des enfants qui sont là sur la rue pour pouvoir nourrir même leur famille. Est-ce que dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça?
Le phénomène travail des enfants, en fait, comme les enfants de la rue, la plupart en fait vont dans la rue pour travailler, c'est très lié. Par rapport à cela, le gouvernement a ratifié la convention 182 de l'Organisation internationale du travail. Par conséquent, il s'engage à mettre en place des mesures pour éviter ce que nous appelons les pires formes du travail des enfants et le travail dangereux des enfants. Bien sûr, si c'est un travail qui ne nuit pas au développement des enfants. C'est sûr qu'il passe sa journée à serrer des chaussures, il ne va pas à l'école. Donc, ça nuit à son développement. Donc, ça, nous appelons ça du travail des enfants. Mais par exemple, quelqu'un qui aide sa maman à faire la vaisselle, je pense que ça, on peut considérer que ce soit normal.
Oui.
Mais nous parlons des enfants qui sont dans les mines, par exemple, des enfants qui se prostituent, des enfants qui sont, au lieu d'aller à l'école, passent leur temps à serrer des chaussures, comme vous venez de dire. Ce sont des choses que le gouvernement doit regarder attentivement, et il est en train de le faire à travers, en fait, le comité de lutte contre les pires formes du travail des enfants. C'est un comité interministériel qui inclut aussi la société civile, bien sûr l'UNICEF et le Bureau international du travail. C'est extrêmement important que nous soyons vigilants sur cet aspect-là, parce que le phénomène des enfants de la rue, des enfants qui travaillent dans les mines, c'est l'avenir des enfants ici au Congo.
Et si on prenait rendez-vous, juste pour vous agrémenter votre début d'après-midi, 5 jours par semaine pour parler culture, mais aussi femmes et bien-être. C'est tout simplement Métissage, de lundi à vendredi, à partir de 13h, dans le Kinshasa. Avec Jeannot Matoki.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Vous êtes en train de suivre Parole aux auditeurs. Aujourd'hui, l'émission est consacrée aux droits de l'enfant avec ce phénomène enfant de rue. Selon les organisations de défense des droits de l'enfant, il existe près de 25 000 enfants de rue dans la ville de Kinshasa, près de 6 000 à Lubumbashi et des centaines dans les autres villes de la RDC. Un phénomène qui a pris de plus en plus de l'ampleur au cours de ces 10 dernières années, avec comme conséquence la violation des droits fondamentaux de l'enfant et aussi la désintégration du tissu social. Et pour en parler, nous avons deux questions. Comment expliquer ce phénomène et quels mécanismes mettre en place pour encadrer ces enfants? Vous pouvez nous écrire par internet si vous voulez participer à l'adresse pa@radiocapi.net. Notre auditeur qui nous appelle de Goma, bonjour Eric.
Bonjour madame.
Oui Eric, selon vous, quels sont les mécanismes qu'il faudrait mettre en place pour pouvoir encadrer les enfants de la rue et pouvoir même, si c'est possible, éradiquer ce phénomène?
Je crois que le ministère chargé de ça doit prendre les problèmes à bras le corps. Sinon, le problème chez gay, quand on dit qu'il faut les encadrer à chaque fois quand ils ont commis telle ou telle de vie, il faut que le gouvernement intervienne. Et on aura maintenant toute une panoplie de gens qui auraient à souhaiter qu'ils s'intègrent dans ce mouvement d'échec. Moi, je dis que si on pouvait peut-être prendre la police, parce que on arrive aussi également à détecter tel ou tel aspect de la ville où ces gens se retrouvent à chaque fois quand ils veulent commettre une erreur de vie. Comme ça, la police le surprend là-bas. Je crois que le reste de ces gens ne peuvent plus vouloir faire partie de ces groupes-là. Mais sinon, quand on dit qu'il faut qu'on les encadre, bon. Il y aura aussi d'autres qui ne sont pas bien encadrés dans leur famille et qui n'ont pas peut-être quoi manger régulièrement et qui auraient à souhaiter, non, il faut que nous venions aussi faire partie de ces groupes-là.
Oui, donc vous pensez que l'éducation de base, c'est d'abord la famille, hein, si on essaie de vous comprendre, c'est un peu ça.
Oui, il faut d'abord qu'il ait l'éducation de la famille. Parce que s'ils sont éduqués de par leur famille, je ne crois pas qu'on puisse remarquer par-ci par-là des tels gens qui commettent de tels vices.
Merci beaucoup, Eric, pour votre participation à notre émission. Il y a Franck qui nous appelle d'Autriche. Bonjour, Franck.
Oui, bonjour, madame Marie-Chantal.
Oui, Franck, on vous écoute par rapport à ce phénomène enfant de rue et comment on peut le maîtriser et l'éradiquer.
Ouais, bon, pour maîtriser ou éradiquer, je crois que les intervenants ont évoqué les différents mécanismes. Moi, je trouve que la première responsabilité revient d'abord à la famille. Il faut qu'on se batte encore pour sensibiliser tous les parents. Et aucun enfant n'a demandé pour venir au monde. Aucun enfant n'a demandé, n'a donné des injonctions aux parents pour qu'on les mette au monde. Ce sont des parents, un homme et une femme, qui se mettent ensemble et qui planifient une naissance. Si cela peut ainsi se dire. Alors, au moment où on se rend compte que certains parents n'arrivent plus à prendre leurs enfants en charge, il y a la société. Et à ce niveau-là, c'est à l'état de savoir aussi préconiser certaines mesures pour qu'on n'ait plus cette prolifération de phénomènes d'enfants dérivés. Bon, il faut aussi qu'on insiste. C'est comme si avec la prolifération des groupes de prières ou des églises de réveil, il y a des pseudo-prophéties pour certains Congolais qui, peut-être s'ils ne prophétisent pas de telles visions, ils ne savent pas légitimer leur métier, quoi. Alors, ces prophètes arrivent quand même à mettre sur le compte de certains enfants, ou ils arrivent maintenant à mettre à l'actif de certains enfants un nombre de malheurs qui surviennent dans leur famille, si bien que le parent qui se sent déjà dans l'incapacité, dans l'impossibilité de prendre leurs enfants en charge, trouvera des prétextes. Et ce sont peut-être des mots qui sont en train de ronger notre société congolaise.
Oui, mais là, vous avez parlé, vous avez fait allusion aux causes hein, de ce phénomène-là. Mais maintenant qu'il y a des enfants dans la rue, parce qu'à Kinshasa, nous sommes déjà arrivés où il y a des enfants de rue, si on peut les appeler encore enfants, parce qu'il y a des adultes qui ont des enfants encore dans la rue. On est arrivé même au phénomène petit-fils de rue. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir maîtriser et éviter, en fait, que ça se poursuive? Parce que quand même, c'est un phénomène de société qui n'est pas assez bon pour le respect des droits de l'enfant.
Vous avez tout à fait raison. C'est ça, c'est, nous nous battons tous pour que l'État puisse reprendre ses responsabilités en main. Au niveau de la Constitution, Madame Chantal, il y a une disposition qui demande ou qui dit que la scolarité est gratuite en République démocratique du Congo. Voudriez-vous me dire si on a déjà mis en application une telle disposition constitutionnelle?
Bon, jusqu'à présent, il faut dire que ce n'est pas encore en application, mais il y a quand même...
aux parents la possibilité de s'occuper des enfants en prenant en charge ces cas, c'est que l'État peut prendre de son côté en charge. Et en ce sens-là, si l'État peut quand même donner aux parents la possibilité de scolariser les enfants gratuitement, certains parents ne trouveraient plus de prétexte pour se débarrasser de leurs enfants. Parce que le premier problème d'abord, demander à un parent de scolariser l'enfant, moyennant son argent, s'il n'en a pas, c'est déjà une croix. Demander à ses parents de continuer à prendre l'enfant en charge, c'est son obligation, mais il y a des parents irresponsables. Alors moi, je crois qu'il faut que l'État mette aussi la main dans la patte pour qu'on n'arrive plus à avoir des prétextes. Alors, il faut aussi qu'il y ait quand même des suivis avec les églises de réveil. Il y en a tellement nombreux, je ne suis pas contre ce genre d'église, mais je ne vois pas qu'une église qui n'a comme objectif que de donner des prophéties pour déstabiliser certains foyers. Dieu n'est pas là pour déstabiliser les hommes, il est là pour unir. Et je crois qu'il faut encore sensibiliser et les parents, et les institutions, et les décideurs politiques pour que chacun de nous arrive quand même à se ressaisir afin de bien reprendre ses responsabilités. Merci. Donc, c'est par là qu'il faut commencer à prévenir.
Merci beaucoup, Franck. Hein. Vous avez dit en fait que les responsabilités sont partagées. Il faut que le gouvernement, la communauté, donc tout le monde, surtout les églises, c'est allusion aux églises. Merci beaucoup, John, plutôt... Franck, pour avoir participé à notre émission. Nous allons avoir notre dernier auditeur, hein, il s'agit de John, hein, il nous appelle à partir de Lubumbashi. Bonjour John.
Bonjour.
Oui John, on vous écoute par rapport au mécanisme pour pouvoir encadrer ces enfants de rue. Quel est votre avis?
Oui. Bon, d'accord, moi, j'appelle John, nous appelle à partir de Lubumbashi. C'est que moi, je peux dire c'est quoi? Les responsables sont les parents eux-mêmes. Ce sont les parents qui sont les responsables. Le gouvernement doit prendre des mesures sérieuses, le gouvernement doit punir, parce que ce sont les parents qui font les choses. Parce que moi, je ne suis pas sûr qu'un pasteur peut dire quelque chose et vous souffrir.
On en a connu, hein. Il y a beaucoup d'enfants qui se trouvent dans la rue. Si vous essayez de les écouter, ils vous diront.
Oui. C'est... Par exemple, c'est des pasteurs. Oui. Nous avons au moins 90% des enfants de la rue qui viennent de Kassaï.
Dans les emplois qui se promènent partout.
Ah bon?
Oui, on vous écoute.
Oui, ce sont les parents qui sont responsables de tout cela.
Mm-hmm.
Moi, ce que je peux demander, c'est aux parents de prendre la responsabilité et au gouvernement de punir sévèrement les parents.
Merci beaucoup, John, pour votre participation à cette émission. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Madame Anne Lee, vous avez suivi nos auditeurs. Encore une fois, les avis sont partagés entre le gouvernement et entre les parents, ainsi de suite. Mais en fait, qu'est-ce que vous pouvez leur dire en conclusion?
je pense que l'État n'est pas ici non plus avec un rôle répressif. C'est avant tout un soutien par rapport aux familles. Et je pense que la plupart des auditeurs ont bien parlé du fait que c'est en premier lieu la responsabilité des familles. Mais ces familles ici, elles n'ont pas les moyens simplement économiques d'élever leurs enfants. Et par rapport à ce qui est la gratuité scolaire, je pense que là, l'État peut intervenir par rapport à cela. Et c'est cette complémentarité que nous recherchons. D'une part, la famille, la communauté, et d'autre part, l'environnement par rapport à toutes les lois, les cadres de référence par rapport à ça. Et là, le gouvernement a un rôle à jouer.
Mais du fait qu'on voit souvent, qu'on voit les nombres d'enfants qui augmentent dans la rue, est-ce qu'on n'a pas l'impression que maintenant les gens s'habituent et trouvent que c'est devenu normal?
Peut-être aussi parce que ces derniers temps, il y a de plus en plus d'études, c'est pour ça, c'est peut-être plus visible par rapport à ça. Je ne suis pas sûre que le travail qui est fait actuellement par l'UNICEF et les partenaires, en fait, nous permettent de rendre la chose un peu plus visible. Donc, soyons un petit peu optimistes dans ce sens-là.
Oui. Merci beaucoup, Madame Lee. Aussi, un dernier auditeur qui nous a écrit par l'Internet, il s'agit de Aimé Balagizi. Les enfants de la rue ne sont pas un phénomène propre à la RDC, surtout dans un pays post-conflit. Leur prise en charge devrait passer par un programme national qui tienne compte de la globalité de la situation sociale du pays. Cependant, pour des raisons propres à l'état actuel du pays, le social ne fait pas partie de la priorité du gouvernement, c'est lui qui le dit. Le phénomène enfant de la rue est l'une des conséquences de la paupérisation de la population congolaise. Loin d'en faire un débat médiatique, cette question devrait relever d'un débat quasi national sur la globalité du social du pays, mais encore une fois, ça n'a jamais été la priorité du gouvernement, voire même des chairs des personnes qu'ils ont élues. Voilà, en fait, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci beaucoup à Madame Anne-Lee d'avoir répondu à notre invitation. Nos remerciements aussi à tous les auditeurs qui ont participé à cette émission. Nous nous retrouverons demain pour notre numéro de parole aux auditeurs. Notre sujet partira du constat que vous avez peut-être déjà fait avec la majoration le mois dernier dans plusieurs provinces des factures de consommation de l'électricité et de l'eau par la Régie des eaux et la Société nationale d'électricité. Et nous allons partir sur des questions. Qu'est-ce qui explique cette majoration? Quels sont vos avis pour une harmonisation de cette facturation? Vous pouvez réagir dès à présent en nous écrivant à pa@radiocapit.net. Et merci à toute l'équipe Parole aux auditeurs pour la réalisation de cette émission.